Avant l'échéance du 9 juin, un autre écho de l'écho revient sur les heurts et malheurs de l'Union européenne. Une petite analyse qui permettra peut-être de comprendre le sentiment, voire le ressentiment des citoyens sur la réussite de l'Union économique et monétaire.
Et oui, parce que, déjà bonjour tout le monde, mais en fait, et pour faire très simple, la seule question qui vaille finalement pour l'Europe, c'est est-ce que la construction européenne nous est bénéfique ? Alors si la question est très simple, eh bien la réponse, elle, s'avère nettement plus complexe. Alors pour mémoire, je rappelle que la création de l'Union européenne avait comme finalité, après le carnage des deux guerres mondiales, de faire régner la paix sur le vieux continent, en partant du principe que l'intrication des intérêts nationaux économiques dissuaderait les pays qui la composent d'entrer en conflit. Et d'ailleurs, ça a plutôt pas mal marché, puisque depuis 1945, eh bien l'Europe n'a pas connu de conflit impliquant les membres de sa coalition. C'est pour ça que j'en enlève évidemment la Yougoslavie. Mais au stade où la paix semble désormais devenue une norme chez nous, eh bien l'Union européenne ne peut pas se contenter de s'en tenir à cette réussite. Elle doit désormais permettre à chaque citoyen européen d'en sentir les bénéfices au niveau économique, social et, osons le mot, au niveau du bonheur individuel et collectif.
Et c'est là où les choses deviennent plus compliquées, justement.
Eh oui, et c'est pour ça que Laurent Chalard, docteur en géographie et membre du Centre de réflexion européenne Center for International Affairs, constate, je cite, « qu'on observe une grande convergence économique entre les pays ». Les pays les plus pauvres, comme le Portugal, la Grèce ou encore les Pays-Baltes, ont incontestablement su profiter de la manne européenne pour se développer. Ainsi, le PIB par habitant des 10 pays d'Europe centrale et orientale est passé de 52% de la moyenne de l'Union européenne à 80% selon la Commission européenne. Mais, nuance Laurent Chalard, je cite encore, « si les fonds européens ont contribué à limiter la très grande pauvreté, ils n'ont pas réduit vraiment les écarts régionaux au sein des pays. Autrement dit, si les capitales et les métropoles ont pu capter une grande partie des richesses, eh bien ça s'est fait au détriment des territoires périphériques et des territoires ruraux. Par exemple, le PIB par habitant à Prague s'élève à 73 000 euros par an, alors que la même chose dans le nord-est de la Roumanie plafonne à 16 300 euros par an. Et le plus, selon la Commission européenne, eh bien depuis 20 ans, les inégalités régionales se sont encore creusées en France, en Belgique, au Danemark et en Suède.
Alors comment expliquer ce phénomène d'hypermétropolisation, c'est-à-dire cette polarisation des richesses entre les grandes villes florissantes et les territoires ruraux aux victimes de la désindustrialisation ?
Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Tout d'abord, l'idéologie néolibérale des politiques européennes et nationales des années 80 a poussé les régions à se spécialiser selon leurs avantages comparatifs. Ça, c'est Ricardo qui nous l'avait enseigné. Pas toujours à bon escient, mais bon. Les grandes villes se sont donc consacrées aux services à haute valeur ajoutée, attirant les diplômés et les capitaux financiers et industriels. Quant au Sud, lui, eh bien, il s'est tourné vers le tourisme, pourvoyeur d'emplois peu qualifiés et précaires. Quant aux régions les plus à l'est de l'Europe, eh bien, elles ont carrément décroché. Alors, deuxième explication, le déclin démographique, qui joue un rôle considérable dans la paupérisation de beaucoup de régions déjà délaissées. Certaines régions d'entre elles ont connu en effet une fuite des cerveaux vers l'ouest, parfois vertigineuse. Tenez-vous bien, la Roumanie et la Croatie ont perdu plus de 10% de leur population. Et la Bulgarie, elle détient un record avec une chute de 26% de sa population depuis 2011. Plus d'un quart. Et c'est la même chose au sud. En Italie, la Calabre se vide avec une perte de 40% de sa population, toujours par rapport à 2011. Et en Espagne, 23 provinces ont perdu la moitié de leur population et de leur richesse économique.
Alors qu'en est-il de la France ?
Eh bien, les nouvelles ne sont guère meilleures. Alors, seule l'Île-de-France et la PACA, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont un PIB par habitant supérieur à la moyenne européenne. Et Mayotte, eh bien, est le département le plus pauvre de l'Union européenne. Alors si on prend Saint-Étienne, Châlons-en-Champagne, Alençon-Perpignan, eh bien, les pertes d'emplois et d'habitants se sont accompagnées d'une paupérisation des centres-villes où les conditions de vie se dégradent et les emplois s'évaporent. Alors évidemment, les conséquences ne sont pas seulement sociales, elles sont aussi politiques. Et partout, en Europe, toutes les études montrent une corrélation entre le sentiment de déclin économique relatif de certaines régions et le vote de mécontentement, que ce soit le Rassemblement national en France, l'extrême droite de l'AFD en Allemagne ou Vox en Espagne. Et il faut rajouter à cela le dérèglement climatique qui va encore creuser un peu plus les inégalités entre les territoires dans les années à venir. entre ceux qui seront énormément touchés et ceux qui seront un petit peu épargnés. Alors vous voyez Margot, si la répartition des richesses européennes n'est pas plus équitable, si les populations délaissées se sentent de plus en plus maltraitées, eh bien ne nous étonnons pas qu'elles s'en remettent au premier vendeur d'espoir qui passe. Alors dans un mois aux élections européennes certes, mais ça peut être également dans 3 ans en France. Et là, eh bien on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.